Il est spécialiste marketing, vice-président, ancien vice-président chez l'Impact, DG TVA Sport, directeur innovation chez Labatt, collabore au Journal de Montréal dans le cahier argent. Hugues Léger est avec nous. Bonsoir Hugues.
Salut Jérémy.
Comment vas-tu? Va?
Super bien.
Ben là, on ne fera pas semblant qu'on se connaît pas. On s'est connus à l'époque à TVA Sport.
Bon, la grande époque du début de TVA Sport.
Ah, c'était quand même toute une aventure, hein?
Rock'n'roll.
On a mis du jus de bras là-dedans.
Oui, avec une belle réussite depuis aussi.
Oui, c'est super, la fun, fort intéressant. Maintenant, comme on le mentionnait, tu collabores dans le Journal de Montréal, Cahier Argent. Et là, je me suis dit, pour que les gens puissent comprendre un peu de quoi on parle, on va essayer d'établir la mise en marché d'un athlète au Québec. Comment ça fonctionne? Première des choses, qu'est-ce qui fait vendre un athlète au Québec présentement?
Avant tout, un peu de performance. Il faut commencer par une réussite professionnelle, il faut des gains, il faut avoir une notoriété qui arrive par la victoire, mais rapidement, on arrive sur la personnalité après. Donc, on peut construire très, très vite si on a des atouts de charisme, de la sympathie du public, mais il faut se positionner rapidement aussi. C'est pas juste de gagner, on gère une marque athlète comme on gère une marque de produits de grande consommation aussi, il faut le dire comme ça. On se positionne avec des valeurs, des attributs, on se distingue de nos concurrents par rapport à une façon d'être et c'est là qu'on devient marketable après. Mmh. Évidemment, la résonance qu'on a au niveau des médias, télé, réseaux sociaux est primordiale et c'est comme ça que les marques se construisent maintenant.
Réseaux sociaux, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire si tu as beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés sur Instagram, ça peut être plus intéressant pour un entrepreneur?
Oui, parce que c'est là que tu engages en profondeur avec un athlète. Là. Tu vois les performances, mais après, c'est sur les réseaux sociaux, si tu es actif, évidemment, que tu vas voir, tu vis comment, tu consommes comment, tu comprends plus la personnalité, le caractère, et c'est à ça qu'on s'attache. On parle souvent de l'intimité avec une marque. On veut cette intimité-là avec un professionnel aussi.
OK. Je prends un exemple de Kim Boutin. Kim Boutin, on voyait dans Le Soleil l'article qui disait Kim Boutin avec 3 médailles du côté de Pyeongchang en patinage de vitesse courte piste. Les commanditaires ne se bousculent pas à sa porte. Et ça me surprend parce que Kim Boutin avait quand même la sympathie de la planète avec justement les actions des Coréens du Sud. Certains ont été extrêmement agressifs envers lui. On a l'impression qu'elle avait la sympathie du public et je m'attendais à voir des commanditaires cogner à sa porte.
L'annonceur veut une entente avec un athlète qui va garantir une portée et une certaine durée dans le temps. Il faut une fréquence, il faut une récurrence. Les athlètes olympiques dans plusieurs sports vont avoir ce pic au moment des Jeux, mais c'est plus difficile entre les Jeux, entre les championnats du monde, de maintenir le niveau d'intérêt pour la marque. Donc, c'est ça qui rend les négociations plus difficiles.
Il y a un gars qui performe, on sait, Michael Kingsbury, lui, performe année après année. Lui est bien positionné, pas en plus, une belle boue, il se débrouille bien publiquement. Sur les réseaux sociaux, c'est une bombe. Ce gars-là est vraiment quelqu'un qui est bien vendable dans le terme de la business. Là.
Tout à fait, mais tu as eu une récurrence. Il est revenu jeu après jeu, il y a une histoire qui s'est construite. On parle souvent de storytelling, c'est une histoire fabuleuse. Là. Donc là, on est même rentré dans sa psychologie cette semaine, comment il s'est senti dans les dernières 24 heures avant sa descente, comment il s'est sorti, il s'est senti durant sa performance. Là, on est rentré dans les tout petits détails. Mais il y a cet attachement qui s'est bâti au fil des ans. Il reste avec une notoriété extrêmement élevée année après année. Et c'est ça, comme annonceur, comme compagnie, qu'on veut aller chercher quand on commente un athlète.
On s'entretient avec Hugues Léger, qui est spécialiste en marketing. Bon, Hugues, tu as vu la liste, là, le top 100 de ESPN. Pas de joueur de hockey là-dedans, Hugues.
Pas de Québécois, pas de joueur de hockey.
Pas d'Eugénie Bouchard non plus.
Eugénie, il a déjà figuré. Je pense que si elle remontait au classement, elle pourrait revenir dans cette liste-là parce qu'Eugénie a tous les atouts pour être un grand succès commanditaire. Quand elle a gagné son Wimbledon junior, après ses deux finales en Grand Chelem, Australie et Wimbledon aussi, après, c'était parti pour la gloire. Là. Les commanditaires se battaient à la porte pour aller la chercher. Elle a eu des très beau contrat aussi à ce moment-là. Mais évidemment, encore une fois, on parle de durabilité, il faut que ça se reproduise dans le temps. Et il y a souvent des clauses dans les contrats de commandite qui sont liées au classement. Donc, tranquillement, si ça s'effrite, ben là, le commanditaire se refroidit un peu et les dollars viennent moins rapidement. Là. Donc, aussi, il ne faut pas oublier que le hockey, quand on regarde le top 100 d'ESPN, le hockey reste un sport régional. Ça reste un sport nord-américain avant tout. Oui, on le pratique en Russie, en Suède, il y a plusieurs pays qui jouent au hockey, mais la grosse ligue nord-américaine n'a pas une portée mondiale comme le soccer peut l'avoir. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on voit trois des cinq premiers qui sont des joueurs de soccer. Mais
il y a du tennis là-dedans aussi, Federer.
Il y a du tennis là-dedans. La NBA a réussi à créer ça aussi. Ils ont battu une marque 1834 fabuleuse. C'est le sport des 1834 en Amérique. C'est le soccer, suivi, c'est le basket, suivi du soccer. Donc, c'est plus difficile pour les sports du Québec d'avoir cette portée qui va au-delà du Canada et des États-Unis. Donc, les contrats aussi sont proportionnels, je vais dire comme ça.
Dis-moi, Hugues Léger, ça ressemble à quoi un budget commanditaire? Comment un athlète peut aller chercher en revenu? Est-ce que c'est payant?
Au niveau local ou au niveau international?
Local. Commençons par le local, puis après, on va se parler international.
Écoute, au niveau local, c'est des budgets qui sont proportionnels à la taille du marché, évidemment. Est-ce qu'on pense pouvoir aller chercher? On fait un business case à chaque fois qu'on va faire un investissement et on voit combien on pense aller chercher avec une marque athlète. Mais je pense qu'il y a des conceptions fausses un peu sur ce que les athlètes peuvent gagner en contrat de commandite au Québec. Un bon contrat de commandite au Québec, ça serait dans des ordres de 100 000 $ par année. Là. Et là, on parle d'athlètes qui ont une notoriété vraiment établie, qui sont connus, qui sont aimés du public. Mais on ne parle pas de millions, là, loin de là. Donc, un bon contrat annuel, 100 000 par année pour un commanditaire, c'est déjà un bon investissement.
Et d'un point de vue international, j'imagine.
Ah, ben là,
les Tigers,
ça va à
les
tous
Messi,
les niveaux. Là, on va dans des millions, dans des dizaines de millions. Les contrats d'Adidas avec Messi, les contrats de Nike avec Ronaldo, qui a créé sa marque CR7 aussi. C'est une marque. Dans la marque Nike, tu as la marque CR7, qui est la marque de Cristiano Ronaldo, qui vaut des dizaines de millions. Là.
Et comme Nike avait fait avec Michael Jordan, entre autres, avait créé
Air Jordan, sa
propre marque de chaussures qui fonctionne encore. Aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait. Air Jordan, c'est une marque mythique. Les gens sont prêts à payer des sommes faramineuses pour des Air Jordan de la première génération. On parle de chaussures à 7 000, 10 000 $. Oui, c'est des marques qui traversent le temps. Mais là, on parle d'athlètes mythiques, de légendes. C'est l'exception, mais ça existe.
Si un gars comme... je regarde, parce que ce soir, je vais suggérer des noms aux auditeurs qui pourront choisir et se faire peut-être une tête là-dessus. Patinage de vitesse courte piste, Samuel Girard qui est là, Charles Hamelin, Kim Boutin, on en a parlé. En snowboard, Maxence Parot et Sébastien Toutant.
Ouais.
Et c'est une... J'ai l'impression, puis je veux, en tant que spécialiste marketing, que tu me dises si je suis dans le champ gauche, mais j'ai l'impression qu'une nouvelle forme de compagnie qui veut aller chercher le plus wild un peu, tu sais, là, les Red Bull de ce monde, un petit peu plus intense, la nouvelle génération, c'est une nouvelle façon, ça, de percer le marché?
Pour la plupart des annonceurs, des commanditaires, on recherche la fameuse cible 1834, dont on parle tout le temps. Red Bull a joué de façon fabuleuse dans ce segment-là, en créant des événements. Leur marketing est basé sur de l'événementiel. C'est une marque événement Red Bull et des athlètes comme Seb Toutant vont tout à fait là-dedans. Ils créent du contenu. Hein. C'est des producteurs, c'est pas juste des annonceurs. Quand Red Bull fait un événement, il devient producteur de l'événement, que ce soit le crash test ou que ce soit les plongeons et tout ce que vous avez vu. Vous vous souvenez du saut dans l'espace, là, il y a une couple d'années. Donc, il crée des événements. Et ça, pour les 1834, c'est fabuleux. On veut du contenu maintenant pour les plateformes sociales. Seb Toutant avait fait un super vidéo sur le Mont-Royal, dont on se souvient peut-être, qui a eu beaucoup, beaucoup de visionnement, là, gros succès. C'est ce genre de contenu-là qu'on veut aller chercher avec un athlète qui peut amener cette connexion avec le public 1834.
Si je regarde la liste du top 100 d'ESPN, on voit que la popularité sur les réseaux sociaux, comme tu viens de mentionner avec Sébastien Toutant, c'est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Est-ce qu'on ne va pas chercher, puis là, je fais attention à ce que je dis, mais en allant chercher quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, on ne va pas chercher quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un dont l'image est plus importante que tout, en fait. Quand tu es annonceur, quand tu es une compagnie, quand tu veux t'associer.
Oui, il faut que la performance soit là, mais il faut qu'il y ait une image qui soit porteuse année après année. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une présence récurrente. On s'attend à ce que l'athlète, la personnalité athlète, ait une présence régulière sur les réseaux sociaux. On va lui demander un nombre de posts par jour, par semaine. On va lui demander des situations spécifiques où on aimerait le voir en interaction avec une marque. Donc, superficiel, non, je dirais que c'est la façon de faire le marketing maintenant. Il faut que la marque communique selon ses valeurs dans les occasions qui touchent la cible. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant.
Hugues Léger, spécialiste en marketing, dis-moi, niveau pan-canadien, si tu avais à cibler une réussite, dire ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne présentement, c'est quelque chose qui est très hot.
Bon, écoute, en ce moment, c'est sûr qu'on a Denis Shapovalov là, qui commence Roland-Garros dans les prochains jours. Moi, si j'avais à miser sur un athlète local canadien qui s'entraîne à Montréal en plus, avec Martin Laurendeau, que beaucoup de monde connaissent, j'irais avec Shapovalov. Je pense qu'on est sur le point de quelque chose d'énorme avec Shapovalov. Il est déjà 26e à l'ATP. Il n'a pas 20 ans encore. S'il se rend jusqu'à Nadal dans le tableau de Roland-Garros, c'est tout à fait prenable pour lui là, jusqu'au quart de finale. Je pense qu'on va assister à quelque chose d'énorme. Il a battu Nadal, vous vous souvenez, à la Coupe Rogers l'été passé, un match incroyable en soirée au niveau stade IGA. Shapovalov, si j'avais à investir comme annonceur, comme compagnie, je dirais sur Shapovalov aujourd'hui.
Et jeune Félix Auger-Aliassime qui s'en vient?
Pareil. On est choyé pour le tennis en ce moment. C'est des joueurs d'un talent qu'on verra pas souvent, il faut le dire. Ils sont vraiment exceptionnels, mais aussi c'est des gentils garçons, c'est des gars qui passent bien en onde. Tu veux t'associer à des personnalités comme ça.
Quand on sort publiquement, comme le fait Françoise Abanda, qui a parlé de racisme, qui a parlé qu'elle a été défavorisée dans certains contextes, qu'elle est présentement la meilleure joueuse canadienne, qu'elle sent pas qu'elle a le support. Évidemment, je pense qu'il faut faire une différence. Puis ça, je fais une parenthèse, mais il faut faire une différence entre le besoin de reconnaissance et le racisme. Je pense qu'au Canada, au Québec, en Amérique du Nord, dans le monde, il y aura toujours du racisme, il y aura toujours des gens qui, malheureusement, donneront de ce côté. Mais point de vue reconnaissance, de sortir publiquement, est-ce que ça fait mal à l'athlète d'un point de vue marketing?
Je pense que Françoise est sortie un peu vite avec ce statement. Je ne crois pas qu'il y ait de racisme à Tennis Canada. Au contraire, je pense que Françoise doit passer une première étape de réussite, de performance. C'est le point que je donnais au début. Elle doit passer plusieurs tours dans des tournois d'importance pour pouvoir avoir accès à cette reconnaissance-là, tout simplement. Qu'elle gagne deux tours en Challenger, pour les médias, c'est pas super intéressant. Pour l'annonceur, c'est pas super intéressant. Je pense que encore une fois, Françoise, au niveau de ses qualités athlétiques, au niveau de sa personnalité, au niveau de son apparence générale, elle serait superbe à commanditer. Il faut juste qu'elle passe certains paliers de performance avant d'avoir accès à ça. Donc, pour moi, le problème est là. C'est pas un problème de racisme.
OK. Si tu me permets, Hugues, je veux parler du fait que tu as été du côté de l'Impact de Montréal et on le disait tantôt, tu as développé le produit TVA Sport à ton arrivée, tu étais directeur général. Tu as été également du côté de l'Impact de Montréal. Tu as vécu la poussée de l'Impact. Et là, je sors de l'athlète pour parler de l'organisation. Je veux te parler de l'Impact. Vous avez réussi beaucoup quand même à partir du début à juste, c'était jusqu'en quoi?
2017.
Oui. Vous avez avancé énormément, mais ça, c'est beaucoup, mais beaucoup de travail pour avancer avec l'Impact.
Oui, ben c'est un travail qui se fait à deux niveaux. Construire une marque, construire un attachement avec une cible, avec un public, avec un marché, c'est un travail de longue haleine. On a plusieurs actions marketing qui sont conçues pour les 18-34. Notamment, c'est la cible de la MLS, c'est la cible de l'Impact aussi. Il faut avoir une certaine tonalité, il faut utiliser les bonnes plateformes pour le faire. Après, tu as des facteurs accélérants comme l'arrivée de Didier Drogba, comme la Ligue des champions, la grande finale au Stade olympique avec 61 000 personnes, la finale de l'Est contre Toronto qui sont des facteurs accélérants. Mais tout ça doit se jumeler à un marketing, je dirais, de proximité et qui parle au 18-34 jour après jour avec un niveau de performance où on doit être in contention, on doit être dans la course tout le temps. Et quand on est dans la course, on peut réussir un plan marketing. On a bien progressé dans ce sens-là. Donc, mais c'est un travail de longue haleine. On n'a pas des racines très profondes de soccer. La culture soccer arrive à Montréal en ce moment. Puis je pense que c'est sur le point de passer à un autre niveau. Bon, après, il faut des performances, comme je disais tout le temps. Il faut un minimum de performances pour que les gens maintiennent l'intérêt.
Parce qu'on le voit, il y a BMO qui a embarqué avec l'Impact, qui a embarqué avec le Toronto FC également. Et là, on a vu des publicités. Evan Bush qui était là, Piatti était là. Mais je suis surpris de voir que là, il y a Samuel Piette qui vient de sortir également avec des vêtements. On l'a vu tout récemment, mais je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de joueurs de l'Impact qui soient visés justement par des campagnes publicitaires.
Écoute, il faut que les annonceurs soient intéressés. La Banque de Montréal fait un très gros travail à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont bien mis les joueurs de l'avant. Mais encore une fois, on est sur un produit qui a une résonance locale qui commence à toucher au grand public. Le soccer arrive dans le mainstream, pardonnez-moi l'anglicisme, là, aujourd'hui. Donc, je pense que les commanditaires sont dans les starting blocks encore pour voir, OK, est-ce qu'on passe vraiment le prochain cap pour dire, OK, je suis prêt à aller chercher un joueur et donner une partie de mon budget marketing.
Hugues Léger, spécialiste en marketing, je veux savoir une chose. Je sais que tu as mis les yeux sur cette liste d'ESPN du top 100. Si j'avais l'occasion de dire, OK, je te laisse choisir une personnalité dans le top 10, que c'est toi qui vas gérer la carrière marketing, qui t'aurait le goût de travailler, de dire, lui, je pense qu'on peut encore davantage décupler tout ce qu'il est en mesure de faire?
Dans le top 10 actuel, bon, je pense qu'on parle de potentiel de marché, de géographie maintenant. Quand Zlatan Ibrahimovic arrive à LA, évidemment, c'est un move de carrière soccer, mais c'est aussi un choix publicitaire pour lui. La marque Zlatan est arrivée à Los Angeles il y a un mois maintenant, avec la fameuse annonce que vous avez peut-être vue dans le LA Times, You're welcome, signé Zlatan.
Il n'y a pas de quoi.
Il n'y a pas de quoi. Bienvenue, LA. Donc, lui développe le marché, sa marque pour le marché nord-américain maintenant. Donc, des marques comme Ronaldo, comme Messi veulent développer leur marque maintenant en Amérique. On voit le Barça qui ouvre des bureaux en Amérique. On voit le Paris Saint-Germain qui ouvre un bureau à New York en ce moment. On veut développer des marchés pour aller chercher des opportunités de croissance, tout simplement. Donc, moi, j'ai bien envie de bâtir des marques comme Messi, Ronaldo ici, encore plus loin. On pense que c'est des marques, oui, ils sont numéro un au monde, mais il y a encore un potentiel énorme du côté de l'Amérique, comme LeBron James du côté européen aussi. Il est deuxième ou troisième sur la liste, là, troisième. Encore une fois, beaucoup de potentiel pour LeBron James à l'étranger. Mais si j'en avais un à choisir aujourd'hui, je pense que Ronaldo, même s'il est premier, il y a encore de la marge de croissance du côté de l'Amérique du Nord aujourd'hui.
Il est incroyable, il y a tout. Incroyable. Il est beau, il est bon, il marche, il est sympathique, les gens l'aiment. Ouais. Histoire incroyable, la famille, puis il y a vraiment tout pour que ça fonctionne.
Et en haut de 30, il y a 32 ou 33, là, il performe encore au plus haut niveau. Demain, finale de la Ligue des champions. Demain, c'est un événement planétaire. Et là, on va voir une marque à son apogée sur la plus grande scène du monde demain. Là.
Maintenant, le point de vue québécois, je t'ai nommé des noms. Est-ce qu'il y a un nom qui dit, je pense qu'on serait capable d'améliorer ça, on serait capable d'aller plus loin encore là-dedans.
Oui, ben j'en ai deux. Je vais prendre deux exemples. Je pense que Marc-André Fleury, évidemment, avec l'histoire des Knights en ce moment, c'est un vrai conte de fées. Puis Marc-André a le profil parfait de l'underdog qu'on veut aimer. C'est un gars simple, un peu timide, mais qui performe d'une façon fabuleuse. C'est le genre de gars qu'on aime au Québec, là. C'est le gars qui est vraiment... qui est pas du tout... qui paraît pas orgueilleux, narcissique, qui est très très calme, qui est très aimable.
C'est normal, il vient de mon coin, voilà.
La réponse est là.
Et voilà, ben voilà.
Donc, je pense que Marc-André Fleury, dans les prochains mois, on verra comment l'histoire se termine dans les prochaines semaines pour la Coupe Stanley, mais il y a un grand potentiel à Marc-André, parce que là, il transmet des valeurs qu'on aime beaucoup au Québec, là. Donc, je pense que Marc-André a beaucoup de potentiel à court terme.
Et dis-moi, pour un marché local, pour le Québec, pour le Canada, pour l'Amérique du Nord, le possible développement commercial...
L'histoire des Knights est tellement Cinderella story là, qu'il y a un potentiel hollywoodien presque. Là. De faire un film avec l'histoire des Knights qui arrive à Las Vegas dans un marché qui ne paraît pas évident pour le hockey, une équipe qui est formée de joueurs rejetés par leurs équipes. Regarde, c'est un vrai conte de fées à tous les niveaux. Donc, c'est Québec, Canada, États-Unis, assurément.
Wow, intéressant pour lui. Ah, donc, tu disais que c'était le premier dossier. Il y en avait un autre également que tu étais
Je vais prendre l'autre côté de la médaille. J'aimerais parler d'Adonis Stevenson un peu. Moi, je pense qu'Adonis... C'est un peu une opportunité ratée. Adonis avait le potentiel dès 2013 de s'affranchir des problèmes qu'il avait eu avant pour profiter de sa notoriété. Et finalement, il n'est pas allé aussi loin qu'il aurait pu aller au niveau de la gestion de sa marque pour connecter avec son public. Il a quand même bien réussi au niveau de ses bourses, évidemment, grâce à son titre, mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus au niveau de sa marque.
Hugues Léger, spécialiste marketing, ancien vice-président chez l'Impact, directeur général à l'époque chez TVA Sports, directeur innovation chez Labatt et maintenant collaborateur au Journal de Montréal dans le cahier Argent du samedi. C'est un plaisir, Hugues, que tu sois avec nous.
Toujours un plaisir.